dans le cadre de la préparation au concours de la Résistance, une classe de seconde passerelle de lycée Horte de Strasbourg a rencontré 5 enfants cachés. Justine Isenbrandt, professeure d'histoire au lycée Horte, à propos du concours de la Résistance, sur le thème retenu cette année, résister à la déportation.
Alors, tous les ans, au lycée Horte, nous participons au concours national de la Résistance et de la déportation. On fait toujours donc un projet avec une classe. Cette année, ce sera une exposition qui racontera notamment l'histoire d'une enfant cachée qui malheureusement n'est plus présente. Mais donc dans ce contexte, ils rencontrent des personnes qui sont encore vivantes et qui peuvent raconter leur parcours et leur partager en direct leur histoire. Ça va leur servir en comprenant les différents acteurs que ces personnes ont pu rencontrer, résistants juste parmi les nations et puis de l'autre côté Gestapo, et comprendre comment toutes ces personnes ont pu interagir pendant la guerre.
Ce jour-là, le 6 mars 2024, ils sont 5 enfants cachés, Betty Grimbert, Liliane Bergman, Claude Veil, Françoise Veil et Edmond Meyersfeld. Nous avons enregistré un extrait de son témoignage.
Moi, j'avais 7 ans quand la guerre a commencé en 1939, mais les rafles pour les Juifs, c'était en 1942. J'habitais Lille à cette époque, donc je vivais avec mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi, ma mère. J'avais plus de père, il était mort quelques années avant. Épidémie de tuberculose à cette époque, c'était courant, c'était banal. Au début, la guerre, c'était pénible pour tout le monde, mais la guerre, en fait, elle a été réglée entre la France et l'Allemagne. En quelques semaines, c'était fini. La France avait perdu. À Lille, on était occupé par l'armée allemande. Mais ensuite, on s'est très vite rendu compte que les Juifs avaient une situation particulière, c'est qu'ils étaient pourchassés par les Allemands. Par exemple, déjà une chose, les gens devaient afficher une étoile de David sur leurs vêtements. Et puis, très rapidement, ils ont été interdits de profession. Les commerçants ont été spoliés, c'est-à-dire qu'on leur a confisqué leurs magasins, leurs ateliers. Ne serait-ce qu'aller au cinéma, à la piscine, au théâtre, c'était interdit. Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'on a eu des échos, que le sort des Juifs était beaucoup plus grave. Ils étaient arrêtés, transportés on ne sait où, et puis on n'entendait plus parler de rien. Les vieux, les jeunes, les enfants, tout le monde. Ma mère avait conservé une radio, elle était rebelle. Elle l'avait mis au grenier et puis le soir, elle allait écouter Radio Londres, donc avec sa voisine du dessus. Ensuite, on a eu des informations, évidemment, qui étaient beaucoup plus dangereuses en quelque sorte. On a commencé à parler de déportation, et ça sans savoir ce que ça voulait dire. On ignorait totalement que les Juifs allaient être tués. Tous systématiquement, on n'employait même pas ce mot-là. Hein. Et c'est en 1942 qu'il y a eu une rafle considérable. Et on était parfois prévenu qu'il ne fallait pas rester chez nous parce qu'il est possible que tel jour, les Allemands allaient venir pour arrêter les Juifs. C'est arrivé une ou deux fois et puis un jour, évidemment, ils sont arrivés. Ma mère avait on lui avait donné une adresse de quelqu'un qui pourrait éventuellement nous héberger pendant une nuit. Dans une ville pas loin, à Roubaix. Mais quand on est arrivé là-bas, eh bien, il n'y avait personne. C'était le début de l'hiver, il faisait sombre très tôt. Et puis moi, 7 ans, mon frère, 10 ans, on marchait, on déambulait dans les rues en se demandant quoi faire. Et puis il y avait le commissariat qui était ouvert, on est entré dans le commissariat, c'est vraiment se lancer dans la gueule du loup. Et elle a expliqué la situation, et il y avait des paillasses sur le sol. Alors ils nous ont cédé leur matelas, on a pu dormir, ma mère sur une chaise, et au petit matin, nous avons prévenu que le chef allait arriver, le commissaire, en quelque sorte, et qu'il ne fallait pas qu'il nous trouve, parce que lui était responsable, lui, en principe, c'est service. On est parti avant l'aube, et à nouveau, on a repris la route de l'appartement, et s'était rien passé. Voilà, ça, c'est un danger auquel on a échappé, mais on ne savait pas trop pourquoi. Et puis un soir, c'est différent. Non, c'était un matin plutôt. Ma mère devait aller, elle faisait les marchés. Donc elle s'est levée tôt, et puis nous, on n'avait pas de classe ce jour-là. Elle a regardé par la fenêtre parce que la femme de ménage qui devait arriver, elle était en retard. Il y avait un agent de police au bas de la porte d'entrée, en bas, qui ne bougeait pas. Elle a regardé un peu plus sur la droite, il y avait une autre maison, 3-4 maisons plus loin, il y avait aussi une famille juive qui habitait là, il y avait aussi un agent de police. Elle a tout de suite compris que c'était ça, c'était de la rafle. Et effectivement, elle a prévenu donc la famille qui habitait à l'étage supérieur. On s'est habillé à toute vitesse, dans la précipitation, hein. Et on était sur le point de se sauver quand le camion, un camion militaire allemand, est arrivé avec des militaires allemands. On a pu s'échapper comme c'était le premier étage. Et dans une rue perpendiculaire, c'était pas tellement loin, on s'est retrouvé dans un couloir de maison. Mais on nous a dit, ne restez pas là. Si les Allemands repèrent l'endroit par où vous êtes échappé, ils vont vous trouver. Ne sachant pas quoi faire, juste en face de ce couloir, de l'autre côté du trottoir, on avait un petit copain avec qui on jouait tout le temps. C'était le seul endroit qu'on pouvait connaître pour ne pas rester dans la rue. Mais son père était flic. Mais il n'y a pas le choix, il faut prendre le risque. Hein. Donc on a sonné, la femme de cet agent de police a ouvert la porte, on s'est précipité dedans. Avant de lui expliquer quoi que ce soit, on s'est d'abord précipité dedans, et on a fermé la porte, on a expliqué la situation, et puis ils nous ont gardés en quelque sorte, pendant, je sais pas, une heure peut-être, et ensuite l'agent de police a dit « maintenant je dois aller prendre mon service, mais dès que le camion est parti, vous quittez la maison hein. ». C'est ce qu'on a fait. Ensuite, ça a été tout un périple. Mais jusqu'à présent, est-ce que vous voyez un peu la situation ça, c'était le début vraiment de la fuite, quoi. Hein. Ensuite, il a fallu se cacher pendant jusqu'à la fin de la guerre. Alors là, c'était beaucoup plus sérieux. Ma mère a eu des informations. Il y avait une filière qui acceptait les enfants juifs cachés. C'était un préventorium, c'est-à-dire que comme un préventorium, c'était des enfants qui étaient susceptibles d'être malades ou bien qui avaient besoin de soins. C'est comme une espèce d'orphelinat très grand qui nous a acceptés, mon frère et moi. Ma mère, elle se cachait, je ne sais pas comment. Et on s'est retrouvés là. Il y avait quelques centaines d'enfants et il y avait plusieurs familles juives. On voyait d'autres familles, on avait comme instruction de ne pas se fréquenter. C'était très pénible parce qu'il n'y avait pas grand-chose à manger, c'était la guerre, hein, des restrictions. Moi j'avais 7 ans, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Et je ne voulais pas manger, je me laissais presque mourir de faim. Je ne comprenais pas la situation. On est resté là quelques mois. La directrice a prévenu ma mère en disant « il ne faut pas les garder, il ne faut pas les laisser ici, parce que le plus jeune, c'est-à-dire moi, il va se laisser mourir comme ça ». Elle s'est débrouillée pour trouver un appartement hors de l'île, en face du cimetière, le plus grand cimetière de l'île. On a fait tout le reste de la guerre caché dans cet appartement. Et là, il fallait faire très 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 attention. Il fallait éviter de dire qu'on était juif à qui que ce soit. Et la meilleure façon c'était de ne pas parler, d'éviter toute conversation avec les gens. Jusqu'à la libération. Alors là ça a changé du tout au tout. C'était en 1944, donc 2 ans plus tard.
Justine Isenbrandt, professeure d'histoire au lycée Hort. Qu'est-ce qui peut les heurter au moment où vous abordez cette période-là ?
Ils se demandent beaucoup pourquoi les gens ont voulu tuer d'autres personnes, pourquoi ces personnes-là précisément. Et dans le cadre de ces rencontres avec des personnes qui ont été cachées pendant la guerre, c'est souvent « est-ce que vous avez voulu vous venger ?» sont très ne comprennent pas qu'on puisse vivre toute sa vie sans vouloir faire payer à la personne qui nous a fait du mal un prix comme eux l'ont payé.
Dans l'apprentissage de la déportation de cette période de la Shoah, il y a un avant, après, vous le sentez, vous, ça ?
Oui, et vraiment dans le cadre de ce qu'on fait ici au lycée Hort, qu'on ne se contente pas du programme d'éducation nationale. On a ces rencontres, on a des voyages au Struthof, en Pologne, qui permettent de rendre très concret cette période qui, généralement, est un peu imaginée pour les élèves. Et là, ça devient très concret et comprennent vraiment ce qui s'est passé. Et on voit que d'un seul coup, la lumière se fait dans leurs yeux.
Lily, lycéenne, 15 ans.
C'est assez émouvant d'entendre les histoires en vrai parce que on entend souvent nos professeurs ou même des reportages à la télé parler de ces enfants ou d'autres histoires de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais forcément, entendre les personnes concernées en parler, ça fait toujours quelque chose. Donc on en retient j'allais dire du positif, mais pas du positif. Mais ça fait du bien d'en entendre parler par les personnes concernées.
Vous avez conscience, vous, de cette chance que vous avez d'entendre ce témoignage en direct et pas via un livre ou une vidéo ?
Oui, forcément, parce que je sais qu'on est sûrement la dernière génération à pouvoir entendre ces personnes parler. Alors forcément, c'est un honneur et une grande chance. Donc j'en suis très contente et je pense que c'est le cas pour l'entièreté de ma classe et de ceux qui ont pu entendre parler ces gens-là.
Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas aujourd'hui là, en écoutant ce témoignage ?
J'ai appris comment les enfants se cachaient à l'époque. J'ai appris aussi des choses que je ne savais pas sur la guerre, comme la débarcation des Américains, etc. Donc voilà, c'est toujours ça d'appris et ça me fait toujours plaisir d'apprendre des nouvelles choses sur ce sujet.
Merci à Karen Bloch de l'association Passerelle pour avoir organisé cette rencontre intergénérationnelle. Qu'est-ce qui est prévu alors pour le concours de la résistance ?
Alors cette année, on va faire une exposition sous forme donc des panneaux que les élèves vont pouvoir écrire, mettre des images d'archives pour raconter le parcours d'une enfant cachée, Anne-Laure Hagenauer, qui a été déportée avec sa famille depuis Karlsruhe et qui a pu libérée du camp de Rivesaltes et qui a eu tout un parcours à rencontrer des personnes, des Justes parmi les nations maintenant, qui ont pu l'aider dans son parcours et elle a pu témoigner par une interview vidéo il y a une vingtaine d'années, avant son décès. Donc on va raconter ça. Et aussi, elle est passée, et on a les documents d'archives de son passage aux ateliers de l'Hort dans les camps de Gurs et Rivesaltes, qui fait le lien du coup avec notre institution et notre établissement.